Lettre 7. Souper grec. Propos auxquels il donne lieu. Ce qu'il m'a coûté. Ménageau. Monsieur de Calonne. Mot de Mademoiselle Arnoux. Calomnie. Madame de S. Sa perfidie. Voici, cher ami, le récit exact du souper le plus brillant que j'ai donné, à l'époque où l'on parlait sans cesse de mon luxe et de ma magnificence. Un soir que j'avais invité 12 ou 15 personnes à venir entendre une lecture du poète Lebrun, mon frère me lut pendant mon calme quelques pages des voyages d'Anacharsis. Quand il arriva à l'endroit où, en décrivant un dîner grec, on explique la manière de faire plusieurs sauces, « Il faudrait, me dit-il, faire goûter cela ce soir. » Je fis aussitôt monter ma cuisinière, je la mis bien au fait, et nous convînmes qu'elle ferait une certaine sauce pour la poularde et une autre pour l'anguille. Comme j'attendais de fort jolies femmes, j'imaginais de nous costumer tous à la grecque afin de faire une surprise à M. de Vaudreuil et à M. Boutin, que je savais ne devoir arriver qu'à 10 heures. Mon atelier, plein de tout ce qui me servait à draper mes modèles, devait me fournir assez de vêtements, et le comte de Parois, qui logeait dans ma maison rue de Cléry, avait une superbe collection de vases étrusques. Il vint précisément chez moi ce jour-là vers 4 heures. Je lui fis part de mon projet, en sorte qu'il m'apporta une quantité de coupes, de vases, parmi lesquels je choisis. Je nettoyai tous ces objets moi-même et je les plaçai sur une table de bois d'acajou dressée sans nappe. Cela fait, je plaçai derrière les chaises un immense paravent que j'eus soin de dissimuler en le couvrant d'une draperie, attaché de distance en distance, comme on en voit dans les tableaux du Poussin. Une lampe suspendue donnait une forte lumière sur la table. Enfin, tout était préparé jusqu'à mes costumes, lorsque la fille de Joseph Vernet, la charmante Madame Chalgrin, arriva la première. Aussitôt, je la coiffe, je l'habille. Puis vint Madame de Bonneuil, si remarquable par sa beauté. Madame Viger, ma belle-sœur, qui, sans être aussi jolie, avait les plus beaux yeux du monde, et les voilà toutes trois métamorphosées en véritables Athéniennes. Lebrun, Pindare, entre. On lui ôte sa poudre, on défait ses boucles de côté, et je lui ajuste sur la tête une couronne de laurier, avec laquelle je venais de peindre le jeune prince Henri Lubomirski en amour de la gloire. Le comte de Parois avait justement un grand manteau pourpre qui me servit à draper mon poète, dont je fis en un clin d'œil Pindare, Anacréon. Puis vint le marquis de Cubières. Tandis qu'on va chercher chez lui une guitare qu'il avait fait monter en lyre dorée, je le costume. Je costume aussi M. de Rivière, frère de ma belle-sœur, Guinguenet et Chaudet, le fameux sculpteur. L'heure avançait. J'avais peu de temps pour penser à moi. Mais comme je portais toujours des robes blanches en forme de tunique, ce qu'on appelle à présent des blouses, il me suffit de mettre un voile et une couronne de fleurs sur ma tête. Je soignais principalement ma fille, charmante enfant, et Mademoiselle de Bonneuil, aujourd'hui Madame Regnault d'Angély, qui était belle comme un ange. Toutes deux étaient ravissantes à voir, portant un vase antique très léger et s'apprêtant à nous servir à boire. À 9h30, les préparatifs étaient terminés et, dès que nous fûmes tous placés, l'effet de cette table était si neuf, si pittoresque, que nous nous levions chacun à notre tour pour aller regarder ceux qui restaient assis. Vers 10 heures, nous entendîmes entrer la voiture du comte de Vaudreuil et de Boutin, et quand ces deux messieurs arrivèrent devant la porte de la salle à manger dont j'avais fait ouvrir les deux battants, ils nous trouvèrent chantant le chœur de Gluck, le dieu de Paphos et de Gnide, que M. de Cubières accompagnait avec sa lyre. De mes jours, je n'ai vu deux figures aussi étonnées, aussi stupéfaites que celles de M. de Vaudreuil et de son compagnon. Ils étaient surpris et charmés, au point qu'ils restèrent un temps infini debout, avant de se décider à prendre les places que nous avions gardées pour eux. Outre les deux plats dont je vous ai parlé, nous avions pour souper un gâteau fait avec du miel et du raisin de Corinthe et deux plats de légumes. À la vérité, nous bûmes ce soir une bouteille de vieux vin de Chypre dont on m'avait fait présent. Voilà tout l'excès. Nous n'en restâmes pas moins très longtemps à table, où Lebrun nous récita plusieurs odes d'Anacréon qu'il avait traduites, et je ne crois pas avoir jamais passé une soirée aussi amusante. M. Boutin et M. de Vaudreuil en étaient tellement enthousiasmés qu'ils en parlèrent le lendemain à toutes leurs connaissances. Quelques femmes de la cour me demandaient une seconde représentation de cette plaisanterie. Je refusai pour différentes raisons, et plusieurs d'entre elles furent blessées de mon refus. Bientôt le bruit se répandit dans le monde que ce souper m'avait coûté 20 000 francs. Le roi en parla avec humeur au marquis de Cubières, qui, fort heureusement, avait été un de nos convives et qui convainquit sa majesté de la sottise d'un pareil propos. Néanmoins, ce qu'on tenait à Versailles au prix modeste de 20 000 francs fut porté à Rome à 40 000. À Vienne, la baronne de Strogonoff m'apprit que j'avais dépensé 60 000 francs pour mon souper grec. Vous savez qu'à Pétersbourg, la somme est enfin restée fixée à 80 000, et la vérité est que ce souper m'a coûté 15 francs. Ce qu'il y a de plus triste dans tout cela, c'est que ces indignes mensonges étaient colportés dans l'Europe par mes propres compatriotes, et la ridicule calomnie dont je vous parle n'est pas la seule dont on ait cherché à tourmenter ma vie. Témoin sévère que Lebrun Pindare m'adressa en 1789 et que peut-être vous ne connaissez pas. À Madame Lebrun. Cher Lebrun, la gloire a ses orages. L'envie est là qui guette le talent. Tout ce qui plaît, tout mérite excellent, doit de ce monstre essuyer les outrages. Qui mieux que toi les mérita jamais? Un pinceau mâle anime tes portraits. Non, tu n'es plus femme que l'on renomme. L'envie est juste, et ses cris obstinés, et ses serpents contre toi déchaînés, mieux que nos voix, te déclarent grand homme. Mettant à part l'exagération avec laquelle le poète parle de mon talent, il reste malheureusement trop vrai que dès mon début dans le monde, je me suis vu en butte à la sottise et à la méchanceté. D'abord, mes ouvrages n'étaient point de moi. M. Ménageau peignait mes tableaux et jusqu'à mes portraits, quoique tant de personnes à qui je donnais séance pussent naturellement porter témoignage du contraire. Ce bruit absurde ne s'en propagea pas moins, jusqu'à l'époque où je fus reçu de l'Académie royale de peinture. Comme alors j'exposais au salon où l'auteur de Méléagre exposait aussi, il fallut bien reconnaître la vérité. Car Ménageau, dont au reste j'appréciais infiniment le talent et même les conseils, avait une manière de peindre entièrement opposée à la mienne. Les tableaux de Ménageau sont parfaitement bien composés et d'un bon style historique. Ce peintre excellait dans la manière de draper. Son Léonard de Vinci mourant dans les bras de François Ier est très remarquable, mais ne vaut pas le Méléagre que l'on garde au Gobelin depuis nombre d'années pour l'exécuter en tapisserie. M. Ménageau est un très bel homme, parfaitement aimable, spirituel et très gai. Aussi le recherchait-on dans la meilleure société. Quoique je fusse, je crois, l'être le plus inoffensif qui ait jamais existé, j'avais des ennemis. Non seulement quelques femmes m'en voulaient de n'être pas aussi laide qu'elles, mais plusieurs peintres ne me pardonnaient pas d'avoir la vogue et de faire payer mes tableaux plus cher que les leurs. Il en résultait contre moi 1000 propos de toute nature, dont un surtout m'affligea profondément. Peu de temps avant la Révolution, je fis le portrait de M. de Calonne et je l'exposai au salon. J'avais peint ce ministre assis jusqu'à mi-jambe, ce qui fit dire à Mademoiselle Arnoux en le regardant « Madame Lebrun lui a coupé les jambes afin qu'il reste en place. » Malheureusement, ce propos spirituel ne fut pas le seul auquel mon tableau donna lieu. Je me vis en butte en cette occasion à des calomnies du genre le plus odieux. D'abord, on fit courir 1000 contes absurdes sur le paiement du portrait. Les uns prétendaient que le contrôleur général m'avait donné un grand nombre de ces bonbons qu'on appelle papillotes, enveloppés dans des billets de caisse. D'autres que j'avais reçu, dans un pâté, une somme assez forte pour ruiner le trésor. Enfin, 1000 versions, plus ridicules les unes que les autres. Le fait est que M. de Calonne m'avait envoyé 4 000 francs en billets dans une boîte qui a été estimée 20 louis. Quelques-unes des personnes qui se trouvaient chez moi quand je reçus la boîte existent encore et peuvent le certifier. On fut même étonné de la modicité de cette somme. Car peu de temps auparavant, M. de Beaujon, que je venais de peindre de même grandeur, m'avait envoyé 8 000 francs sans qu'on s'avisât de trouver ce prix trop énorme. Toutefois, le canevas fourni, les méchants s'en emparèrent pour le broder. J'étais harcelé de libelles qui tous m'accusaient de vivre en liaison intime avec M. de Calonne. Un nommé Gorsaz, que je n'ai jamais vu ni connu, et que l'on m'a dit être un jacobin forcené, vomissait des erreurs. Contre moi. Le malheur voulut que M. Lebrun, qui, contre mon gré, faisait bâtir une maison rue du Groschenet, donna par là prétexte à la calomnie. Certainement, lui et moi, nous avions gagné assez d'argent pour nous permettre une pareille dépense. Cependant, certaines gens soutenaient que M. de Calonne payait cette maison. Il l'aurait payée bien tard, car elle ne l'a été tout à fait qu'à mon retour de Russie en 1801. M. Lebrun m'avait laissé ce soin à mon grand désappointement. « Vous voyez, disais-je sans cesse à M. Lebrun, quels infâmes propos l'on tient !» « Laissez-les dire, me répondait-il dans une sainte colère. Quand vous serez morte, je ferai élever dans mon jardin une pyramide qui ira jusqu'au ciel et je ferai graver dessus la liste de vos portraits. On saura bien alors à quoi s'en tenir sur votre fortune. Mais j'avoue que l'espoir d'un pareil honneur me consolait peu de mon chagrin présent. Ce chagrin était d'autant plus vif que personne, moins que moi, n'avait craint de pouvoir devenir l'objet d'une pensée avilissante. » J'avais sur l'argent une telle insouciance que je n'en connaissais presque pas la valeur. La comtesse de la Guiche, qui vit encore, peut affirmer qu'étant venue chez moi pour me demander de faire son portrait, et me disant qu'elle ne pouvait y mettre que 1 000 écus, je répondis que M. Lebrun ne voulait point que j'en fisse à moins de 100 louis. Ce défaut de calcul m'a été fort désavantageux pendant mon dernier voyage à Londres. J'oubliais constamment que les guinées valaient plus d'un louis, et pour mes portraits, entre autres pour celui de Madame Canning, en 1803, je faisais mon compte comme si j'étais à Paris. Tous ceux qui m'entouraient, de plus, savent que M. Lebrun s'emparait en totalité de l'argent que je gagnais, me disant qu'il le ferait valoir dans son commerce. Je ne gardais souvent que 6 francs dans ma poche. Lorsqu'en 1788, je fis le portrait du beau prince Lubomirski, alors adolescent, je l'ai représenté en amour de la gloire, agenouillé devant un laurier et tressant une couronne. Ce tableau est toujours resté dans la famille. Le roi de Pologne m'a dit à Pétersbourg que jamais on n'avait voulu consentir à le lui céder pour aucun prix. Sa tante, la princesse Lubomirska, m'envoya 12 000 francs, sur lesquels je priai M. Lebrun de me laisser 2 louis. Mais il me refusa, prétendant avoir besoin de la somme entière pour solder tout de suite un billet. Il était plus habituel, au reste, que M. Lebrun touchât lui-même, et très souvent, il négligeait de me dire que l'on m'avait payé. Une seule fois dans ma vie, au mois de septembre 1789, j'ai reçu le prix d'un portrait. C'était celui du bailli de Crussol qui m'envoya 100 louis. Heureusement, mon mari était absent, en sorte que je pus garder cette somme qui, peu de jours après, le 5 octobre, me servit pour aller à Rome. Mon indifférence pour la fortune tenait sans doute alors au peu de besoin que j'avais d'être riche. Ce qui rendait ma maison agréable, n'exigeant aucun luxe, j'ai toujours vécu fort modestement. Je dépensais extrêmement peu pour ma toilette. On me reprochait même trop de négligence, car je ne portais que des robes blanches, de mousseline ou de linon, et je n'ai jamais fait faire de robes parées que pour mes séances à Versailles. Ma coiffure ne me coûtait rien, j'arrangeais mes cheveux moi-même et le plus souvent, je tortillais sur ma tête un fichu de mousseline, ainsi qu'on peut le voir dans mes portraits, à Florence, à Pétersbourg et à Paris, chez M. de Laborde. Dans tous mes portraits, enfin, je me suis peinte ainsi, excepté dans celui qui est au ministère de l'Intérieur, où je suis costumée à la grecque. Certes, ce n'était pas une telle femme que pouvait séduire le titre de receveur général des finances, et sous tout autre rapport, M. de Calonne m'a toujours semblé peu séduisant, car il portait une perruque fiscale. Une perruque! jugé comme, avec mon amour du pittoresque, j'aurais pu m'accoutumer à une perruque. Je les ai toujours eus en horreur, au point de refuser un riche mariage, parce que le prétendant portait perruque. Et je ne peignais qu'à regret les hommes coiffés ainsi. Ce qu'il y a d'ailleurs de surprenant dans cette affaire, c'est que rien n'avait pu prêter une ombre de vraisemblance à la calomnie. Je connaissais à peine M. de Calonne. Une seule fois dans ma vie, j'avais été chez lui au ministère des Finances. Il donnait une grande soirée au prince Henri de Prusse, et ce prince venant habituellement chez moi, il avait jugé convenable de m'inviter. Enfin, je me souviens d'avoir hâté son portrait au point de ne pas faire les mains d'après lui, quoique j'eusse l'habitude de les faire toujours d'après mes modèles. Je n'aurais donc jamais imaginé de quelle source pouvaient naître ces propos désolants, sans la découverte que je fis plus tard d'une perfidie digne de l'enfer. Monsieur de Calonne allait très souvent rue du Gros-Chenet, où je ne logeais pas encore à cette époque, chez Madame de S., femme de D., surnommée Le Rouet. Madame de S. avait un charmant et doux visage, quoiqu'on pût remarquer quelque chose de faux dans son regard, et M. de Calonne en était très amoureux. Dans le temps dont je vous parle, elle m'avait prié de faire son portrait, et comme un jour elle prenait séance, elle me demanda, avec son air de douceur habituel, si je voulais lui prêter ma voiture le soir pour aller au spectacle. J'y consentis et mon cocher alla la prendre chez elle. Le lendemain matin, je demandai mes chevaux pour 11 heures. Mais à 11 heures, cocher, voiture, rien n'était rentré. Je dépêche aussitôt quelqu'un chez Madame de S. Madame de S n'était point de retour. Elle avait passé la nuit à l'hôtel des Finances. Jugez de ma colère quand j'appris quelques jours après par mon cocher, auquel un bon pourboire ne ferma pas la bouche et qui conta le fait à plusieurs personnes de la maison. En pensant que si les gens de l'hôtel des Finances ou d'autres avaient demandé à cet homme le nom de ses maîtres, cet homme avait dû répondre naturellement qu'il appartenait à Madame Lebrun. J'étais tout à fait hors de moi. Il est inutile d'ajouter que je n'ai jamais revu Madame de S, qui, m'a-t-on dit, vit à Toulouse et s'est jetée dans la plus austère dévotion. Que Dieu lui pardonne! A-t-elle voulu sauver sa réputation aux dépens de la mienne? Me haïssait-elle? Je ne sais. Mais elle m'a fait bien du mal, car les longs détails dans lesquels je viens d'entrer, cher ami, vous prouvent assez combien j'ai souffert d'une calomnie qui s'appliquait si mal et à mon caractère et à la conduite de toute une vie que j'ose dire avoir été honorable. Voilà vraiment une triste lettre faite pour dégoûter de la célébrité, surtout lorsqu'on a le malheur d'être femme. Quelqu'un me disait un jour, « Quand je vous regarde et que je songe à votre renommée, il me semble voir des rayons autour de votre tête. » « Ah !» répondis-je en soupirant, « il y a bien quelques petits serpents dans ces rayons-là. » En effet, a-t-on jamais vu une grande réputation, dans quelque genre que ce soit, ne pas attirer l'envie? Il est vrai qu'elle attire aussi près de vous vos contemporains les plus distingués, et cet entourage console de beaucoup de choses. Quand je songe à tant de gens aimables et bons, dont j'ai dû l'amitié à mon talent, je me félicite d'avoir fait connaître mon nom. Et pour tout dire en un mot, cher ami, quand je pense à vous, j'oublie les méchants. Adieu.